Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer des entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, on parle de cybersécurité avec Emeline Manson de Cyclic et tout particulièrement des effets de levier que l'intelligence artificielle peut avoir pour ou contre votre organisation. On parle entre autres de 5 cas spécifiques d'attaque couplés à l'intelligence artificielle, le tout dans le but de vous éduquer pour être le plus prudent possible dans votre entreprise. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Emeline Manson, présidente et formatrice experte en prévention et cybersécurité chez Cyclic.com. Donc, Emeline, elle est fondatrice de Cyclic et elle se consacre également au rôle de l'humain dans le maintien de la sécurité des systèmes informatiques et de la protection des données personnelles. Elle est passionnée par la psychologie humaine et curieuse de trouver toujours de nouvelles façons de faire pour inclure l'humain au quotidien. Elle enseigne également au certificat cyber enquête de la Polytechnique de Montréal et compte plusieurs années d'expérience en intervention psychosociale et en criminalité financière dans le domaine bancaire. Emeline, merci d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu?
Ça va très bien et merci pour l'invitation. Je te l'ai déjà dit, mais je suis très honorée et très excitée d'être là aujourd'hui, sincèrement. C'est un honneur.
C'est un réel plaisir de t'accueillir. On te voit beaucoup passer sur LinkedIn. Tu es très, très, très active dans le sujet de la cybersécurité. Donc, on a une grande croyance que ça s'applique beaucoup au podcast Pivot. Et on a eu la chance de s'entretenir hors podcast et de parler de différents sujets. Et on s'est dit, pourquoi pas apporter le sujet de la cybersécurité, mais mêler un petit peu avec l'intelligence artificielle, de ChatGPT, tout ça ensemble, sous un angle de la start-up, du produit techno. On pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être intéressants à mettre sur la table pour en partie éduquer les gens, à éveiller les gens et à leur donner un petit peu les réflexes là, pour être capable de limiter les potentielles problématiques en niveau cybersécurité, parce que plus on avance, plus il y en a. Et le podcast d'aujourd'hui, on va attaquer là, différents angles. À travers tout ça, on va parler de l'humain, on va parler des émotions que les pirates exploitent, mais on va aussi regarder différents types d'attaques que les pirates vont faire. Et là, ceux qui nous écoutent, qui développent un produit techno ou qui pensent en développer un, la grande problématique qu'on a dans les startups ou dans les débuts de développement de produits, c'est que le budget est souvent très limité. L'équipe en place a toujours 30 fois plus de tâches à accomplir que de disponibilité humaine. Et tout ça, c'est un beau mélange pour laisser des portes ouvertes pour des pirates informatiques. Donc, on essaie aujourd'hui de vous transmettre un peu d'infos pour porter le plus attention possible à ces éléments-là, de s'éduquer, de s'élever et de développer les bons réflexes. Donc, Emeline, tu voulais ajouter un petit quelque chose avant qu'on débute?
Mais j'aime beaucoup l'image de porte que tu as mentionnée, de laisser des portes ouvertes. Et ce qu'on veut, c'est effectivement fermer ces portes définitivement le plus possible, avoir un contrôle sur celles qui sont ouvertes.
Et j'aime cette analogie-là, et il y en a tellement de portes. Par contre, c'est ça la problématique. Faut un, les voir, les portes. Faut voir si elles sont ouvertes ou pas. Mais savoir comment les fermer et tenter peut-être de les barrer le plus possible. Mais des fois, les pirates sont ingénieux pour débarrer les portes et réussir à rentrer, là. Donc, premier item que j'aimerais qu'on aborde, c'est le rôle de l'humain dans la cybersécurité. Puis c'est souvent pas ce que les gens vont penser en premier, là, mais l'humain a un rôle extrêmement clé dans la protection, la défense au niveau cybersécurité. Emeline, c'est quoi ta vision par rapport à ça ou c'est quoi ton mindset par rapport au rôle de l'humain pour la cybersécurité?
On dit souvent que l'humain est le maillon faible de la chaîne. C'est quelque chose que j'aime pas tant comme expression. Je trouve que c'est négatif et je suis quelqu'un généralement de positif dans la vie. Et j'aime mieux dire que en tant qu'humain, on a du pouvoir sur la technologie, on a du pouvoir sur les communications qu'on a tous les jours. Et ce pouvoir-là, il faut simplement avoir de bons réflexes, de bonnes habitudes. Donc, quand on parle de cybersécurité, généralement, notre premier réflexe, c'est de penser à l'aspect technique, technologique. Et c'est vrai que c'est super important, ça va de soi. Mais si notre humain, en arrière de son écran, n'est pas sensibilisé, le résultat est le même. On va quand même avoir des gens qui vont cliquer à droite, à gauche, avoir des mots de passe que c'est le nom du chien, du chat. Donc, avec ces mauvaises pratiques-là, on peut avoir le meilleur système en place. Si notre humain n'est pas sensibilisé, on se ramasse quand même avec une cyberattaque, avec des incidents à l'interne. Et c'est beaucoup ce qu'on voit en ce moment dans les médias. Les incidents de sécurité, les cyberattaques qu'on a, c'est un humain qui a cliqué à quelque part qui n'était pas supposé. Et c'est, je reprends notre image de porte de tantôt, c'est comme si, visuellement, c'est comme si ma maison, elle était full barricadée. J'ai des alarmes, j'ai un détecteur de mouvement, tout le kit en termes de protection de la sécurité physique. Mais là, c'est moi, en tant qu'humain, qui habite dans cette maison, qui ouvre la porte de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui cogne, ça n'a pas rapport. Il y a quand même un livreur Domino's Pizza à la porte. Je suis comme, c'est bizarre, j'ai pas livré de pizza. Bref, j'ai des analogies bizarres des fois, mais pour ça, tout pour mettre en tête que l'humain, c'est celui qui ouvre la porte de l'intérieur, que tout est barricadé pourtant de l'extérieur, mais on a cet humain-là qui clique. Et chaque humain, et tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais je pense que oui, tout humain ressent des émotions. Et tu disais tout à l'heure que nos fraudeurs s'adaptaient, mais les fraudeurs sont créatifs. Moi, je pense que les fraudeurs sont des chefs d'entreprise, eux aussi. Ils roulent une business indirectement, ou directement même, et ils savent mettre le doigt sur les bonnes émotions au bon moment. Des fois, ils font même pas exprès, mais ils sont super bons à ça. Je pourrais raconter des anecdotes et des analogies en lien avec ça, mais es-tu d'accord déjà, en partant, qu'on est tous des humains qui ressentent des émotions?
Absolument, et c'est souvent notre point fort d'avoir des émotions, mais c'est souvent notre point faible ou le point faible pour une organisation en termes de cybersécurité. Et je trouve ça tellement pertinent qu'on mette l'humain d'abord et avant tout au centre de la discussion. J'ai mis une tranche de vie quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de lire un livre qui s'appelle The Art of Intrusion de Kevin D. Mitnick, qui est un des plus grands cyberfraudeurs au début de la logique de la cybercriminalité. Il a écrit un livre sur l'ingénierie sociale, donc d'être capable de manipuler l'être humain pour arriver à ses fins. Mais lui, c'était beaucoup sous un angle technologique. Et ce qu'il disait, c'est souvent pas les systèmes qui ont des failles, c'est la capacité à l'humain à se faire manipuler. Et tout ça revient à l'émotion au final. Et si vous voulez lire un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment... moi, ça m'a vraiment déstabilisé quand j'ai lu ce livre-là, de voir à quel point qu'il décrit toutes ces techniques qu'il a utilisées à travers le temps. Et c'est disponible en vente libre pour tout le monde. Si ça tombe malheureusement dans les mains d'une personne mal intentionnée, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui peut être utilisé du mauvais côté. Et ça se rapporte directement à l'émotion humaine. Et on est tous des humains, on a tous des émotions. Donc, on a tous un point faible qui peut être exploité par quelqu'un en quelque part avec un aspect technologique en arrière de tout ça. Maintenant, je pense qu'il y a un aspect, si on apporte le volet intelligence artificielle derrière tout ça, je pense qu'il y a un aspect positif, il y a un aspect également négatif de l'intelligence artificielle. J'aimerais ça que tu nous partages un peu ta vision, Emeline, sur cet aspect-là de l'intelligence artificielle qui arrive dans le décor présentement.
On a toujours deux facettes. Comme tu dis, il y a toujours les avantages, il y a toujours les inconvénients. En termes d'avantages pour la cybersécurité, on en a plusieurs. On peut, grâce à l'intelligence artificielle, détecter des attaques, des intrusions. Tu sais, on peut comme avoir un petit flag, un petit robot en arrière qui roule justement et qui nous lève le drapeau en disant il y a une activité bizarre. Ça permet d'analyser aussi des vulnérabilités dans les systèmes de façon automatisée. Ça permet d'identifier des schémas d'activités suspectes, malveillantes. Il y a juste à voir au niveau des antivirus. Aujourd'hui, les antivirus, c'est un petit peu démodé. Maintenant, il y a une nouvelle technologie où est-ce que on analyse le comportement grâce à l'intelligence artificielle des utilisateurs. Et à ce moment-là, on voit cette personne-là, elle n'a pas l'habitude de faire ça. On va lever le drapeau, on va lever le flag. Donc, plusieurs aspects qui permettent de renforcer la sécurité, d'automatiser certaines tâches, ce qui amène des défis plus pour le côté RH des gens en cyber, mais on pourra s'en jaser éventuellement. Mais plein d'aspects qui sont super positifs. Mais comme on le disait, les fraudeurs et les pirates informatiques sont plus du côté négatif de la force, puis sont tellement créatifs, sont tellement innovantes dans ce qu'ils font, qui malheureusement ont toujours une longueur d'avance. Donc c'est super difficile en termes d'exemples concrets de trouver des... J'ai cherché dans les médias des cyberattaques spécifiquement où l'intelligence artificielle a aidé les malfaiteurs. C'est introuvable dans les médias, c'est tellement à huis clos. Tu sais, on veut pas en parler, on veut pas dire ce qui s'est passé. Il y a un gros manque de transparence, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe. Et c'est dur d'avoir des détails précis sur ce qui peut arriver, mais je veux qu'on regarde aujourd'hui effectivement comment d'être un petit peu plus proactif. Moi, je suis une fille de prévention. J'aime imaginer le pire. Alors, souvent, mon chum me dit, tu sais, ça arrivera jamais. T'imagines le pire. Ouais, mais tu sais, il y a des trucs proches qui s'en rapprochent quand même des fois. Donc, voir un petit peu quel pourrait être le levier pour les pirates à utiliser l'intelligence artificielle. Et on veut vous donner des exemples concrets à travers. Aujourd'hui, tu avais beaucoup d'exemples aussi quand on en discutait la première fois. Donc, c'est vraiment d'imaginer tout ça pour voir dans vos organisations comment justement ces émotions-là peuvent être exploitées, la notion d'ingénierie sociale. C'est sûr que ça va être utilisé avec l'intelligence artificielle à peaufiner des scripts, à peaufiner plein de choses. Donc ouais, c'est effectivement ce que je vois en termes positifs, négatifs. Toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Mais je trouve ça intéressant. Ma perception de l'intelligence artificielle, une fois que c'est rendu dans les mains de l'humain, ça devient des outils. Donc, chaque outil a une certaine portée en puissance, en efficacité. On peut penser à un forgeron qui n'aurait pas toute sa bâtisse pour créer une armure dans le temps, son recul dans le temps médiéval. Mais il n'est pas puissant à ce moment-là, le forgeron. Mais quand toutes les technologies sont arrivées, il est devenu mieux, de jour en jour, meilleur et toujours meilleur. C'est un peu la même chose avec, si on veut se protéger nous-mêmes, l'intelligence artificielle devient un outil pour nous aider à se protéger. Mais de l'autre côté, c'est quand même un outil pour être beaucoup plus puissant pour les malfaiteurs ou les gens en cybercriminalité qui en font quasiment une profession aujourd'hui, de réussir à créer des dommages. Et là, on le voit, les attaques sont de plus en plus puissantes, sont de plus en plus rapides, se métamorphosent de plus en plus. Puis on va le voir dans les exemples, ça commence à être vraiment, vraiment impressionnant où ce qu'ils peuvent se rendre, les cybercriminels avec l'intelligence artificielle. Mais il y a un aspect également que si on recule il y a 10 ans, comment je pourrais mentionner le mot, je vais trouver le bon terme exact, mais les gens qui étaient dans la criminalité faisaient beaucoup de sous avec, par exemple, les produits illicites, la drogue et tout le reste. Ils se sont rendus compte à travers le temps qu'il y avait beaucoup d'argent à faire en cybercriminalité et il y a des budgets qui sont transférés à ce moment-là dans le dark side vers cet élément-là. Donc, ils commencent à avoir de plus en plus d'argent, de plus en plus de capacité à engager des bons cerveaux. Et si on coupe ça avec l'intelligence artificielle, mais ça devient des super-héros du côté du dark side à ce moment-là. Donc, ma vue, c'est l'intelligence artificielle, c'est simplement un outil qui décuple la force de l'humain. Si l'humain est du bon côté de la force, tant mieux. Si l'humain est du mauvais côté de la force, malheureusement, ben, ça lui donne des armes très, très, très fortes. Et vu qu'il y a un aspect monétaire, donc il y a une motivation à faire de l'argent, des fois, en arrière de ça, ben, c'est ce qui fait que c'est si opaque. C'est opaque qui fait qu'on n'est pas capable de voir ce qui se passe du côté sombre de la force. Mais il y a vraiment beaucoup de mouvements présentement qui se fait là et on va l'expliquer dans les exemples dans les prochaines minutes. Donc, Emeline, tu as relevé plusieurs effets de levier que les pirates ont d'utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que le premier type d'attaque qu'on pourrait mettre de l'avant, c'est les attaques par hameçonnage améliorées par l'intelligence artificielle. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce qu'une attaque par hameçonnage et en quoi ça peut être à ce moment-là plus puissant, plus performant, aidé par l'intelligence artificielle?
Alors, certainement, hameçonnage, on peut faire référence aussi au mot phishing en anglais. Donc, c'est un peu l'image de « je vais à la pêche ». Et j'attends que quelqu'un morde à l'hameçon. Et à ce moment-là, je collecte des données, je récupère des sous d'une certaine façon. Donc, l'hameçonnage, c'est un message qui est envoyé à plusieurs personnes qui semblent provenir d'une institution de confiance, d'une personne que je connais et qui m'incite à avoir une action, soit cliquer sur un lien, soit cliquer sur une pièce jointe, ouvrir une pièce jointe ou transmettre de l'information. C'est ça, on en reçoit plein, hein, des courriels d'hameçonnage, on en reçoit quasiment à tous les jours. On peut penser aux textos qu'on reçoit. Et je parlais juste avant avec quelqu'un qui avait reçu un virement Interac de Vidéotron pour remboursement des frais. C'est de l'hameçonnage aussi, c'est envoyé at large et on attend que quelqu'un clique et morde à l'hameçon. Les réseaux sociaux regorgent de messages d'hameçonnage aussi. Ou est-ce qu'une personne que je connais, que j'aime et à qui je fais confiance se fait pirater son compte et le fraudeur envoie de l'information, envoie des liens WhatsApp et ainsi de suite. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut faire là-dedans? J'ai plusieurs axes que je veux exploiter. On peut déjà penser à le fait de raffiner les messages qui ont été envoyés, mais je pense que c'est la première chose qui nous vient en tête et je vais y revenir. Mais je veux, avant ça, tu sais, avant d'envoyer un message d'hameçonnage, ça prend de l'information. Il faut collecter de l'information. Savoir à qui, en tant que fraudeur, moi, à qui est-ce que j'envoie de l'information? Donc, on va chercher, avec l'intelligence artificielle, à automatiser la collecte d'informations. On pourrait donc, en tant que fraudeur, et puis là, je rassure les gens qui nous écoutent, on fait pas un cours 101 sur comment frauder, bien entendu, mais comment nous être dans la prévention. Mais on pourrait imaginer très bien quelqu'un qui utilise l'IA pour récolter des informations sur un individu, sur une entreprise à partir de sources en ligne. T'es un robot qui scanne les sites web à la recherche d'adresses courriel. Ça existe déjà. Et les pirates, ils peuvent utiliser l'IA pour venir automatiser ce processus de scrapping, de collecte d'informations, et ils peuvent se brancher sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses sont publiques sur les réseaux sociaux qui attendent juste d'être ramassées. Donc là, on extrait automatiquement les informations disponibles sur toutes sortes de plateformes, de rechercher de l'information spécifique en disant « Moi, petit robot, je voudrais que tu ailles me chercher des noms, des adresses, des dates de naissance. » Il y a combien de documents qui sont accessibles en ligne, des PDF, des PowerPoint, des choses qu'on même pas d'affaire à être là. Et en scrapant, en sortant, en extractant tout ça du web, on peut trouver beaucoup, beaucoup d'informations. L'étape, oui, je te laisse rebondir.
Et ce qui est intéressant, c'est exemple ChatGPT présentement, où les modèles d'intelligence artificielle maintenant permettent d'aller chercher de l'information sur Internet. Donc, quelqu'un pourrait très bien dire, va me chercher sur Internet pour 100 requêtes différentes, tout ce que tu peux trouver sur Jonathan Léveillé ou sur Emeline, ramène-moi ça dans un seul fichier, condense-le, fais-moi un profil de la personne et quels pourraient être des points d'attaque potentiels ou des points d'entrée de social engineering à apporter. Et ça, ça devient une arme extrêmement puissante pour les cybercriminels. Et de l'autre côté également, les fameux petits robots pour aller collecter l'information de manière plus rapide ou pratiquement sans effort pour l'être humain, eh bien ça prenait, il y a un an de ça, beaucoup de connaissances en programmation pour faire ça. Maintenant, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent de scripter 99% de ces scripts-là en une simple ligne de commande, en format langage humain. Donc, ça devient beaucoup plus accessible de créer des scripts d'automatisation qui peuvent être utilisés du mauvais côté de la force. Mais après ça, pour agréger toute l'information et d'en sortir un contenu pertinent et utilisable, l'intelligence artificielle devient vraiment, vraiment, vraiment extrêmement, malheureusement pertinent pour les cybercriminels.
Ouais, parce que faire tout ça à la mitaine, c'est de la job, on s'entend. T'es d'avoir collecté tout ça, maintenant, faut l'analyser. Alors que si on a une intelligence artificielle, tu sais, j'ai un individu qui poste fréquemment sur les réseaux sociaux à propos de son amour pour les chiens, ben, on pourrait avoir une IA qui sort ce sujet central-là avec, tu sais, on envoie à cette personne-là directement conçu pour elle un bulletin d'un refuge pour animaux local avec un lien, voici les nouveaux chiens disponibles à l'adoption. C'est certain et clair que la personne va cliquer, tu l'as pogné pile dans sa thématique, dans son émotion, et là, en cliquant, ben, elle pourrait installer un logiciel sur son ordi. Donc clairement, cette notion d'analyse de la data aussi, on peut penser à repérer aussi sur des photos. Tu sais, ça, les photos, on n'en parle pas beaucoup, mais on peut aller chercher les visages de la personne, oui, mais récupérer des informations sensibles sur des photos comme « Ah, ici, j'ai un numéro de carte de crédit sur cette photo. Ah, il y a une capture d'écran, il y a des choses qui ont été partagées. » Donc, on peut aussi analyser, oui, le support écrit, mais on va reparler aussi du support de la voix, c'est le vocal. Donc, clairement, c'est un autre aspect hyper, hyper intéressant. Les fautes d'orthographe. C'est souvent, moi, ce que je disais ça il y a 6-7 ans en formation, de dire les fautes d'orthographe, c'est un bon indicateur parce qu'on a l'avantage d'être francophone. Donc, nos fraudeurs sont en majorité anglophones puis utilisent des traducteurs plus ou moins raffinés. Mais là, avec l'intelligence artificielle, ça devient super simple d'éviter les fautes de syntaxe, les erreurs d'orthographe. Et ça, on peut même inclure des petites choses un petit peu plus convaincantes. Inviter quelqu'un à cliquer sur un lien, comme on disait, et ainsi de suite. Bon, on peut même, tu sais, c'est drôle, hein, mais, enfin, c'est pas drôle, mais imiter le style d'écriture de quelqu'un. Et imiter l'écriture de quelqu'un de spécifique, on pourrait utiliser justement ces technologies, envoyer un courriel qui semble vraiment provenir d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille, parce qu'il utilise les mêmes emojis, il utilise les mêmes trucs. Moi, tout le monde me charrie avec ça, mais c'est ce que je fais. J'aime ça, envoyer des petits emojis, mais tu sais, le old school avec les deux petits points, le trait et la bouche. Alors mon chum, il me niaise avec ça, il dit pourquoi il est moche le nez de ton emoji, bref. Mais ça, c'est ma signature. Fait que quelqu'un pourrait comme analyser que moi j'envoie d'un petit bonhomme comme ça, puis envoyer un message, puis tout le monde serait comme, ah ben c'est Emeline qui l'a envoyé, il y a juste elle qui met un nez sur ses bonhommes.
Et on pourrait penser à ce moment-là, moi j'ai des idées qui me viennent en tête, là, mais on a tous, ou pratiquement tous, un petit logiciel sur son ordinateur qui corrige les fautes d'orthographe, ou ça s'en met de plus en plus populaire, un petit widget qui nous permet de filtrer un peu ce qu'il y a dans nos courriels puis créer des réponses automatiques ou d'avoir accès à l'ensemble du data de nos courriels. Donc ça donne exactement ça permet de transmettre la donnée en quelque part à quelqu'un, de savoir exactement comment vous écrivez, c'est quoi votre style d'écriture, et si ce modèle-là tombe dans les mains d'une mauvaise personne, mais il est capable de simuler exactement votre style d'écriture, d'avoir toute votre liste de contacts en plus que vous connaissez. Et juste ça, de donner accès à l'entièreté de votre boîte de courriel à des petits outils comme ça, il y a peu de gens qui savent qu'ils s'exposent à une fraude potentielle de se faire passer pour vous par quelqu'un d'autre qui est extrêmement grande.
Un gros 100% là-dessus, puis ça me faisait penser aussi, j'imaginais toujours dans mon pire scénario catastrophe, mais c'est un outil qui est développé de plus en plus sur les sites web, c'est les chatbots. C'est une plateforme, un petit robot à qui est-ce que tu peux parler, puis qui te renvoie vers des liens cohérents, qui te renvoie vers de l'information, qui répond à tes questions, c'est merveilleux. Mais on n'y pense pas, mais ça pourrait être infiltré. Ça pourrait, il y a des vulnérabilités dans ces petits robots-là qui feraient en sorte qu'un fraudeur pourrait un peu détourner puis envoyer ses propres liens à lui. Et que ce soit intégré sur des sites web légitimes, oui, sur des applications de messagerie légitimes, oui, mais on pourrait, ça pourrait être détourné puis que là, le fraudeur engage la conversation, gagne leur confiance parce que je suis sur un site que je connais, je suis sur Canon Canada, ça fait du sens. Mais le petit robot a peut-être été détourné puis c'est pas le petit robot à qui je pense que je suis en train de parler et là, je clique sur un lien qui est malveillant et ainsi de suite. Donc, cette notion d'hameçonnage amélioré, c'est ce que j'entends par là, de voir à quel point la confiance, je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est à quel point on a tendance à faire confiance, et c'est tant mieux, c'est essentiel pour le bien humain. Mais moi, je souffre, je vais le dire à nos auditeurs, je souffre de ce que j'appelle une saine paranoïa. Et pour expliquer à nos gens ce que c'est dans ma vie, la saine paranoïa, c'est comme si tous les jours dans ma vie, c'est le 1er avril. Tous les jours, je m'attends à recevoir des messages ou est-ce que le 1er avril, tu t'attends à te faire niaiser, à recevoir des messages par rapport. Mais cette hypervigilance-là, même si on fait confiance, devrait nous accompagner au quotidien. Et il vaut mieux en avoir un peu, pas trop, parce que ça devient compliqué à gérer, mais quand même un petit peu. Parce que la confiance, qu'est-ce que tu penses de cette notion de confiance? Penses-tu que c'est le point le plus sensible sur lequel on peut appuyer?
Ben, je pense que oui. Et la problématique qu'il y a, c'est que ça prenait beaucoup d'efforts aux cybercriminels pour instaurer une confiance dans le message qui était transmis ou du moins dans les pages qui étaient simulées. Ou là, la problématique, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, d'instaurer cette confiance-là, puis même aller à un niveau de confiance plus élevé que parfois que ce qu'on voulait simuler initialement, c'est rendu extrêmement facile. L'effort est divisé par 10, par 50 peut-être dans certains cas. Et même, il y aurait moyen de dire à l'intelligence artificielle, de dire « analyse dans la page de Desjardins que je simule aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait laisser croire à la personne que cette page-là soit fausse? » Et apporte-y tout de suite les modifications pour essayer de limiter cette émotion-là. Et l'intelligence artificielle serait capable d'émettre des recommandations et d'aller modifier le code. Ce qui est complètement hallucinant au bout de la ligne. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, on parle du premier cas, des attaques par hameçonnage. Deuxième cas qu'on pourrait parler, et ça, je pense qu'on va avoir des bons cas intéressants, parce que moi, j'en ai vu passer dernièrement, et je pense toi aussi, attaques par téléphone et par la voix. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi, et on va rentrer après ça en détail dans le sujet?
Ben certainement, puis tu sais, on parlait d'hameçonnage juste avant, donc on a une bonne compréhension, je pense, à présent de ce qu'est l'hameçonnage, mais il faut se dire que on reçoit, et on peut recevoir ce même type de fraude par téléphone. Donc, recevoir des appels frauduleux, des fois, ça va être des messages, des appels automatisés. Il y a des choses très légitimes qui se font avec les appels automatisés aussi d'ailleurs, mais il y a plein de technologies maintenant de synthèse vocale qui vont pouvoir être utilisées pour créer de faux appels téléphoniques. Donc, ce que j'entends par attaque par téléphone, je te laisserai rebondir avant de rentrer dans la thématique, le cœur de la thématique si tu le souhaites, mais c'est vraiment, on prend notre téléphone, on reçoit des appels, on reçoit des textos, on est des humains, on se parle de vive voix, on entend, on reconnaît la voix de la personne aussi avec qui on pense parler, mais tout ça pourrait être détourné aussi.
Et je donne deux exemples que j'ai vus et vécu dans les dernières journées qui m'ont complètement jeté par terre. On utilise une plateforme de messagerie ici à l'interne chez OpenMind qui est peu utilisée ici au Québec pour un certain type de communication, nos communications urgentes entre nous. Et là, je l'identifierai pas la plateforme parce que je m'expose à ce que des gens exploitent ça. Mais bref, j'ai un de mes collègues qui m'envoie un message et dit « Mon Dieu, regarde ça ». Et il a reçu un message sur cette plateforme-là qui simulait moi avec un message. Écoute, j'ai vraiment besoin que tu m'aides pour une tâche urgente. Mon nom est signé dans le message et c'est adressé à lui. Donc, les pirates savent qu'on discute ensemble sur cette plateforme-là, savent mon numéro de téléphone, son numéro de téléphone à lui, savent le nom des deux personnes et savent également c'est quoi le lien de dépendance ou plutôt de hiérarchie qu'on a dans l'organisation. Et cet ensemble d'informations-là, normalement, ça prend une fortune de temps à un pirate à aller chercher, là. Et c'est du volume, eux autres. Ils vont en lancer des hameçons à l'eau ou des lignes à l'eau et à un moment donné, ça va mordre. Et de le faire de manière manuelle, c'est beaucoup trop coûteux. Mais là, il y a fort à parier qu'il y a un système en arrière aidé par l'intelligence artificielle qui a été chercher de l'information à gauche et à droite, probablement en public, qui s'est infiltré probablement dans un système en quelque part qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Exemple, là, on parlait, il y a Petro-Canada qui s'est fait hacker dans les dernières journées, Suncor. J'ai su que j'étais dans la liste des gens qui avaient les pétropoints. Et là, mon numéro de téléphone, mon nom est sorti par là. Donc, c'est peut-être en lien avec l'attaque de Suncor. Peut-être également que l'autre personne ici était abonnée pétropoints et ils ont matché à ce moment-là sur LinkedIn qu'on avait un lien ensemble. Et on dit, on le laissait, et voilà. Mais que cette personne-là ou que cette attaque-là sache toute cette information-là en un bloc et l'utilise, c'est sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle en arrière. Et là, on a été jeté à terre parce qu'on l'utilise pratiquement peu ou pas cette plateforme-là, sauf pour un besoin précis. Et à ce moment-là, ben, ça nous laisse croire que cette personne-là le savait qu'on l'utilisait, ce qui est complètement hallucinant. Un autre exemple qu'un de mes collègues me disait, son grand-père a reçu un appel téléphonique de lui, comme quoi qu'il était en prison et qu'ils avaient besoin d'argent rapidement pour sortir de prison. Et c'était sa voix à mon collègue qui était simulée par intelligence artificielle en appelant son grand-père. Et là, on exploite un peu la vulnérabilité des fois des gens un petit peu plus âgés qui savent pas qu'on peut simuler un ton de voix. Une chance, la personne était assez vigilante. La première affaire qu'il a dit, ça a pas l'air d'être mon, ça a pas de sens que tu sois en prison. Puis de toute façon, tu m'appelles jamais. Fait pourquoi tu m'appellerais aujourd'hui?
C'est très drôle.
La fraude a arrêté là. Mais bref, je pense que cette genre de fraude-là, elle est peu connue encore et elle va être extrêmement exploitée parce que ça coûte pratiquement zéro à faire. Et vous vous demandez peut-être comment que les criminels sont capables d'avoir votre ton de voix. Eh bien, on a tous des fois un appel qui arrive, qu'on sait pas c'est qui, puis qui nous pose une question, puis qu'on comprend pas pourquoi, puis la conversation se termine là. Mais ils ont enregistré votre ton de voix à ce moment-là. Ils vont l'utiliser pour faire du deepfake après. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai reçu un faux appel d'Amazon qui me disait que j'avais des colis urgents qui s'en venaient, qui étaient probablement frauduleux, qu'il fallait que je réponde à un questionnaire pour canceller la commande. Souvent, les gens disent, ben, il n'y a pas de problème, je donne pas d'informations secrètes, mais ils viennent d'aller collecter votre ton de voix. Ils viennent de confirmer que c'est vraiment vous au bout du numéro de téléphone. Et là, à ce moment-là, ben, ils récoltent l'information, ils vont l'utiliser peut-être contre vous par après. Donc, ça devient inquiétant que le simple fait de répondre à un appel téléphonique, de dire oui ou non, peut être servi dans une attaque future au bout de la ligne. Par exemple, si vous dites oui et que c'est enregistré, le pirate peut prendre ce bout d'appel-là, appeler votre fournisseur téléphonique et se faire passer pour vous. Et quand ils disent « est-ce que c'est bien vous? » Ben, il dit oui avec votre ton de voix. Et si la reconnaissance vocale, elle est admissible comme méthode d'authentification chez votre fournisseur, eh bien voilà, il vient de réussir à se faire passer pour vous. Et prendre contrôle de tout ce que vous recevez comme message texte et bypasser un paquet de système de sécurité. Donc, c'est complètement hallucinant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Morale de cette histoire, ne pas répondre oui à l'eau. On peut répondre non à l'eau, mais on a l'air un petit peu bête quand on fait ça. Mais simplement dire bonjour, ou moi je recommande même aux gens de décrocher, mais de pas répondre, enfin de rien dire, de laisser un temps de latence, de laisser un temps sans rien dire et de voir est-ce qu'il y a un système automatisé qui embarque derrière. Et à ce moment-là, on raccroche. Mais le super exemple, ce que tu as abordé par rapport au grand-père d'un des membres de ton équipe, ça c'est la fraude des grands-parents très très connue. Et là, on avait un grand-papa qui était très sensibilisé au fait que son petit-enfant l'appelait pas, donc c'était le bouclier d'une certaine façon, mais ça pogne. Pour vrai, et je trouve ça, c'est pas appuyé sur des belles émotions, ça, par exemple, sur, tu sais, c'est vraiment de la peur, puis de mettre le grand-parent dans la confidence aussi, de dire, il faut pas que tu le dises à papa, à maman, ils sont pas au courant, oh là là là. C'est vraiment pas des belles émotions, mais effectivement, de plus en plus utilisées, et tu voulais ajouter quelque chose, je vois ton oui. Nom verbal.
Et voilà, ben, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il ait mentionné comme quoi, ben, tu m'appelles pas souvent, fait que c'est probablement pas toi, les fraudeurs, honnêtement, peuvent prendre cet audio-là, l'amener en format texte, automatiquement faire une requête à ChatGPT pour dire « ça n'a pas fonctionné » et là, rassembler l'information en lot pour dire « ce script-là n'a pas fonctionné, propose-moi un autre script ». ChatGPT renvoie l'information, c'est automatiquement testé dans les prochains appels audio. Et là, le cybercriminel peut, de manière automatique avec un script, continuellement automatiser son script pour arriver toujours à être plus performant d'un appel à l'autre et finir par avoir un script qui a peut-être un taux de succès de 90-95% au bout de la ligne. Et c'est là qu'il s'est rendu vraiment hallucinant parce qu'il peut, à très peu d'efforts, s'améliorer d'appel en appel beaucoup plus que ce qu'un humain serait capable de faire là, et tout ça de manière automatisée.
Ouais, puis tu sais, comme tu parlais aussi de l'analyse de la voix, comme quoi notre voix peut révéler beaucoup d'informations. On peut donner de l'information sur notre âge, sur notre genre, sur les accents qu'on peut avoir, sur notre état émotionnel. Tu sais, pour vrai, juste, il y a des experts de la voix qui sont très, très bienveillants et légitimes, mais qui dénotent tout ça. Tu sais, quand on prépare les artistes, quand on prépare tout ça, ils ont des coachs de voix. Mais justement, toutes ces belles connaissances-là sont exploitées pour le mal aussi, puis mis justement dans l'intelligence artificielle pour venir automatiser tout ça. J'ai pris connaissance dernièrement d'une nouvelle technologie qui existe et je trouvais ça incroyable pour le bien, mais qui va pouvoir être détournée pour le mal aussi. C'est, admettons, tu lances plein d'appels, tu sais, c'est plus pour, dans un contexte de prospection, de vente, tu lances plein d'appels, puis là, les gens qui répondent, si t'es déjà sur un appel, toi, tu peux comme lui envoyer un message automatisé, pas un message texte, mais un message vocal en disant « Hey, je suis sur la route, je suis sur un autre appel, je t'appelle dans 2 minutes ». Mais c'est pas toi pour vrai qui l'a dit, c'est juste un message automatisé vocal que tu envoies à la personne, puis elle raccroche, puis toi, tu la rappelles. Ça permet d'être dans la masse. Et bon, donc, c'est quelque chose qui peut être toute cette notion d'automatisation. Peut être aussi toute la notion de au niveau de l'affichage sur notre téléphone, quand un numéro nous appelle, faut pas prendre pour du cash que c'est vraiment le numéro d'affichage qui nous appelle. Même, tu sais, j'appelle, voilà, Desjardins m'appelle. C'est pas parce qu'il écrit Desjardins que c'est Desjardins pour vrai. Donc là, on sort peut-être du contexte IA, on est plus dans la téléphonie IP et tout, mais c'est à quel point la technologie a du positif, mais est aussi utilisée pour nous duper et pour venir chercher toutes ces émotions-là. Tu abordais la notion de deepfake. Et tu donnais comme exemple, c'est un excellent exemple de deepfake audio. Mais il y en a plein d'autres, des deepfakes. On peut penser vidéo, on peut penser tout ça. Mais je voulais m'assurer, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant que j'embarque là-dedans?
Ben, c'est complet pour la partie téléphone et voix. Puis j'ai bien hâte qu'on tombe dans le deepfake. Si tu pouvais peut-être juste l'expliquer pour le bien de l'auditoire, qu'est-ce qu'un deepfake?
C'est un concept un peu bizarre à expliquer, mais c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre en utilisant la voix, en utilisant l'image. Donc, c'est un petit peu ce qu'est un deepfake. Est-ce que tu aurais d'autres mots-clés?
J'irais peut-être également avec l'option de simuler l'identité de quelqu'un de manière hyper réaliste. Donc, on pourrait penser, par exemple, vous voyez une vidéo de Barack Obama, puis vous dites, mon Dieu, Barack Obama, je comprends pas pourquoi il dit ou il fait ça. Ben, c'est peut-être juste une simulation virtuel qui est hyper réaliste de Barack Obama, mais en réalité, c'est rien de vrai, ça n'a jamais été filmé pour de vrai, c'est jamais Barack Obama qui a dit ça. Mais on commence à en avoir de plus en plus de ce genre de vidéos-là parce que la technologie permet de le faire très, très facilement. Je pourrais, en probablement 2-3 minutes, réussir à aller chercher ces outils-là et faire simuler, exemple, Emeline, de dire quelque chose, de faire une vidéo, l'enregistrer, le mettre sur Internet et dire « Emeline a dit ça », mais c'est pas elle. Donc, c'est super dangereux là, parce que on n'est pas encore habitué que cette technologie-là existe. Donc, quand on va voir la vidéo ou l'audio de quelqu'un, quand ça a l'air hyper réaliste, on se dit c'est vraiment elle qui a dit ça ou qui a fait cet acte-là au final. Là.
Puis c'est pour ça à quel point les attaques évoluent, parce que il faut constamment nous s'adapter à ces nouvelles attaques, dans le sens où maintenant, par écrit, quand je reçois un message, j'ai peut-être un petit peu plus le réflexe de faire des vérifications, parce que j'ai intégré que c'est pas parce que ça vient de l'adresse courriel que je connais que c'est vraiment la personne que je connais en arrière. Peut-être qu'elle s'est fait pirater. Mais on dirait que la voix, c'est un gage de confiance, c'est un gage de, ben, c'est sa voix, je reconnais sa voix, c'est vraiment elle, c'est vraiment lui. Alors que, comme tu le dis, ça peut avoir été manipulé. Ça donnait un exemple, très, très bon exemple au niveau des personnalités publiques, où est-ce que, c'est très facile d'usurper leur voix, puisqu'ils ont énormément de visibilité et énormément de bouts de leur voix qu'on peut créer quelque chose avec. Mais c'est pas bien compliqué, effectivement, en mettant un court extrait. On peut vraiment extraire quelque chose d'hyper intéressant. Et sans rentrer dans les personnalités publiques, on peut penser à monsieur, madame, tout le monde, à d'usurper l'identité de quelqu'un. Je peux créer une vidéo de cette personne dans une situation embarrassante, en train de commettre un crime, en train de commettre un... Et ça, pour la réputation. Et là, la réputation en ligne, on ouvre une porte, pas à peu près, quand on parle de la réputation en ligne, parce que ce qui est en ligne reste en ligne. C'est très difficile, voire impossible d'effacer du contenu. J'ai vu un très beau reportage par rapport à ça il y a quelques années, où est-ce que c'était un PDG d'entreprise, un des employés, pour niaiser, mais pour faire du mal aussi, avait publié sur le web une photo édentée. Donc, avait fait un petit montage, puis une photo où t'as l'impression qu'il manque une dent à notre PDG. Mais ça a été impossible à retirer d'Internet. Tu peux pas retirer d'Internet, ça avait été partagé, repartagé. Et ce que tu peux faire au mieux, c'est de de rendre ça, mettre ça le plus loin possible dans les résultats de recherche. Et ça, ça passe par de la création de contenu pour venir ressortir dans les premiers résultats de Google, mais les choses négatives et fausses restent. Et ça, ça amène beaucoup, beaucoup d'enjeux quand on sait que ça peut être super facile de créer un contenu faux sur une personne. Et à ce moment-là, c'est la vie de la personne, là, elle peut perdre sa job, ça peut entraîner beaucoup de problèmes de santé mentale, tous ces aspects-là. Mais c'est très difficile, voire impossible de retirer des choses d'Internet.
Et on voit beaucoup de messages présentement qui sont envoyés par screencasting, donc l'enregistrement par Berrycast, Loom de ce monde et compagnie. Et quand on reçoit ce genre de messages-là, aujourd'hui, on est habitué de dire c'est sûr que c'est la personne qui me l'a envoyé. Je la vois virtuellement, mais je la vois, c'est son ton de voix, c'est la manière qu'elle bouge, qu'elle s'exprime. On pourrait très bien simuler ça aujourd'hui et utiliser à ce moment-là la méconnaissance de l'être humain sur cet aspect-là et d'utiliser l'émotion au niveau de l'urgence, au niveau de l'aide, au niveau du côté désespéré, de dire envoie-moi de l'argent rapidement, je suis pris à tel endroit, je suis en prison ou il faut vraiment transférer de l'argent dans tel compte pour une transaction X. Et là, on se dit, ben c'est sûr et certain que c'est pas quelque chose qui est faux, là je le vois. Mais ça peut être faux, c'est un peu ça le deepfake. Et c'est peu connu encore aujourd'hui, donc ça commence déjà à être exploité par les cyberpirates et ça va l'être de plus en plus, je pense, en avant nous. Et on a probablement une fenêtre d'un 10, 15, 20 ans avant que les gens soient très alertes de ce genre de problématiques-là.
Tout à fait. Puis on peut penser à toute la notion de harcèlement, de manipulation. Tu sais, l'exemple que toi t'as donné était plus un exemple de, t'sais, dans le sens où le message vocal qui semblait provenir de toi, qui a été envoyé à un membre de ton équipe, ça aurait pu amener à des pertes financières, ça aurait pu amener à des incidents de confidentialité si l'employé avait envoyé de l'information en arrière. Donc, tu sais, c'est à garder en tête. Mais toute la notion de d'utiliser l'intelligence artificielle pour harceler, pour manipuler des individus, je pourrais, tu sais, encore une fois, on parlait de toute la notion d'usurpation d'identité, puis créer du contenu compromettant, mais ça pourrait être fait aussi pour l'interne. Et on parle de fraudeurs, de grandes organisations, mais ça peut être aussi de la malveillance. Nous, en tant qu'individus, on sent des émotions. On dit qu'il n'y a pas d'émotions positives, négatives dans la vie, mais il y a quand même des émotions moins belles que d'autres. Et la jalousie, ça nous fait faire des choses pas super géniales des fois. Et ça peut être amené à dire « Ah, telle personne a eu un poste, je vais lui porter préjudice parce que je suis jaloux de l'évolution que cette personne peut avoir. » Ben, faire chanter quelqu'un, harceler, on est dans cette même thématique-là et surtout dans le domaine des personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on veut créer quelque chose, on veut aussi de par notre branding personnel de se démarquer, mais ça peut être tellement vite détruit malheureusement à cause de cette technologie-là, mais c'est un peu hors de notre contrôle. Ben, je vais quand même venir sur des pistes de prévention, là, bien sûr, mais c'est vrai que c'est le bout de plate.
On veut parler également de sabotage des données.
Oui.
Je serais curieux de t'entendre parler un petit peu de ça, Emeline.
Alors, il y a plein, ça, on rentre un petit peu plus dans le côté technique, technologique, mais je vais rester le plus vulgarisatrice possible. On pourrait saboter des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, on a des systèmes d'intelligence artificielle super bien conçus, qui sont positifs, qui sont bienveillants, mais on pourrait avoir quelque chose qui viendrait altérer les données pour ce qui est fait pour former l'intelligence artificielle. J'entends ce qui est fait pour coacher l'intelligence artificielle. Je donne des exemples, ça va être plus facile. Un pirate pourrait insérer de fausses données dans le flux d'informations d'une entreprise pour induire en erreur son système IA. C'est une entreprise qui légitimement utilise l'intelligence artificielle de pousser quelque chose pour conduire à de mauvaises décisions ou à des vulnérabilités de sécurité. Dans un scénario plus dangereux, les pirates pourraient aussi altérer des données utilisées pour, former les systèmes de conduite automobile. Ça, c'est un exemple intéressant parce que, tu sais, toutes les voitures connectées, tous les trucs connectés, ben, il y a quand même un robot qui prend des décisions à savoir est-ce que j'accélère, est-ce que je m'arrête, est-ce qu'il y a un obstacle et ainsi de suite. Donc, on pourrait introduire dans toute la formation des intelligences artificielles, introduire, exemple, des images de situations de conduite surétiquetées comme dangereuses ou vice-versa. Donc, dans toute la programmation, dans tout le système d'apprentissage, on pourrait venir altérer tout ça. C'est ce que j'entendais par la notion de sabotage des données.
Et je trouve ça vraiment fascinant que Tesla n'ait toujours pas été piraté sur cet aspect-là parce que ça doit être probablement une des plus grandes cibles mondiales. La journée où un pirate va réussir à saboter un peu le système de Tesla au niveau de la conduite pratiquement autonome, cette personne-là va malheureusement devenir célèbre et c'est peut-être son but au final, mais célèbre à l'échelle mondiale de causer une problématique. Et là, ça peut être une problématique sur des centaines de milliers de véhicules en même temps. des millions de véhicules en même temps. Donc, croire à Paris que présentement Tesla doivent se battre jour après jour contre des cyberattaques, mais tôt ou tard, ils vont en laisser passer une et il va arriver quelque chose. Et je suis extrêmement surpris qu'il n'y ait toujours rien eu, malgré qu'il y a peut-être eu quelque chose puis c'est resté privé, mais il n'y a rien qui est sorti encore public à l'heure d'aujourd'hui. Et tous les véhicules s'en vont vers là. Donc, il y a vraiment quelque chose, probablement effectivement le sabotage de données. Un des plus grands cas qu'on va sûrement voir, c'est l'automobile, la conduite qui s'en vient pratiquement autonome. Un autre sabotage qu'on peut penser qu'on commence à voir, c'est surtout les systèmes d'énergie, pétrole, huile et compagnie au niveau des nations. On l'a vu dans les dernières journées ici au Canada, on s'est fait pirater Suncor, qui est une entité canadienne. Ils ont été en blocage dans au-delà de 1500 points de service pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas été capables de processer des paiements. À l'interne, les systèmes sont en arrêt également. Et ça peut causer une commotion vraiment impressionnante pour une nation si l'énergie n'est plus disponible pendant un long bout de temps. Et encore là, présentement, toutes les données pointent vers la Russie. Est-ce que c'est de la propagande ou de la politique qui est faite? Mais il y a de la guerre probablement qui se joue à un autre niveau plus élevé que qu'est-ce qu'on pense au bout de la ligne. Mais ça serait un bel exemple. Ben, c'est un bel exemple de sabotage probablement de données qui est arrivé. Ils ont été crypto-lockés, ça bloque les systèmes. Et là, ça crée une problématique qui est pas juste à l'intérieur de son entreprise. Ça crée une problématique à l'échelle nationale. Là.
Puis même, on voit quand même un changement dans les motivations des pirates, dans le sens où il y a encore quelques années, on se faisait rançonner, donc t'es ransomware, rançongiciel, où est-ce que je vais chiffrer, encrypter toutes les données d'un ordinateur, puis je demande une rançon pour donner la clé et redonner accès à l'entreprise ou à l'individu. Il y a quelques années, on voyait que la motivation première, c'était la demande de rançon et faire du cash avec ça. Aujourd'hui, depuis peut-être un an à peu près, je trouve que le paradigme a un peu changé, la motivation des fraudeurs a changé, qu'ils se posent même plus la question de « oh, je vais demander une rançon, tiens, je vais faire de l'argent avec ça ». Non, ils font juste détruire les données. Puis là, c'est plein de secrets, plein de travail qui fout le bordel dans un pays, on s'entend, parce que de la donnée, j'y ai accès et je fais plus je demander une rançon puis tu récupères, non, je détruis. Donc ça change beaucoup aussi. Et la dernière idée que je voulais amener, c'est que quand je parlais du positif et de faire le bien, que l'IA pouvait nous permettre de détecter des vulnérabilités. Et c'est le fun, on répare, on colmate, on ferme ses portes définitivement, pour reprendre l'analogie qu'on disait au début. Mais à l'inverse, les fraudeurs, les cybercriminels peuvent aussi exploiter les vulnérabilités. Eux aussi peuvent comme analyser puis découvrir de nouvelles vulnérabilités. Les IA pourraient être formées pour tester différentes combinaisons d'entrées, observer les résultats pour identifier les failles de sécurité. Mais eux, c'est pas dans un but de les colmater là, c'est dans le but de les exploiter aussi. On pourrait faire le fait de modifier légèrement des données d'entrée d'un système d'IA pour obtenir un résultat différent, souvent en notre faveur, pour comme, oh ben, exemple, un logiciel antivirus basé sur l'IA, mais un pirate pourrait modifier légèrement le code en arrière pour que l'IA ne reconnaisse pas que c'est un virus et ainsi de suite. Donc, c'est le dernier point que je voulais amener, mais c'est de beaux défis.
Effectivement. Et dernier petit point qu'on voulait parler, c'est l'exploitation des vulnérabilités par l'intelligence artificielle. C'est un peu ce que tu mentionnais présentement, là, qu'on peut aller chercher les vulnérabilités plus facilement. Je ne sais pas si c'est une rumeur, mais quand ChatGPT est sorti au début novembre, début décembre, il y a quelqu'un qui a... il n'y avait pas encore tous les garde-fous qu'il y a aujourd'hui pour tenter de ne pas faire dérailler le système. Et il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT d'analyser le protocole Ethereum, qui est une monnaie, une crypto-monnaie. Et la demande était, peux-tu trouver une faille de sécurité dans le système? Et ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de trouver quelque chose. Et apparemment, ça aurait sorti positif. ChatGPT a été capable d'identifier une faille qui n'avait pas encore été découverte. Et c'en est suivi de beaucoup de garde-fous qui étaient rajoutés dans ChatGPT pour empêcher le grand public d'aller prendre ChatGPT et l'utiliser d'un mauvais côté, ou du moins que ça peut tomber du mauvais côté. Mais reste que le modèle d'intelligence artificielle est toujours là en arrière. Si quelqu'un a accès à ça sans les garde-fous, eh bien, à ce moment-là, ça peut être extrêmement puissant pour trouver des vulnérabilités dans plein de systèmes. Et c'est un peu ce que les logiciels d'aide à trouver des vulnérabilités fait pour les pirates à chapeau blanc, qu'on appelle des white hats. Donc, c'est supposé servir pour le bien, mais quelqu'un qui le prend pour le mal, l'outil sert malheureusement du mauvais côté de la force là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner à l'auditoire comme piste de défense suite à l'écoute de ce podcast-là?
Alors, d'être proactif, de pas être démoralisé, parce que l'IA a quand même beaucoup de positifs. Là, c'est sûr qu'on insiste sur des aspects moins beaux, mais il y a quand même beaucoup de positifs aussi. Mais dans la prévention, vraiment adopter une posture proactive en matière de cybersécurité, selon moi, c'est essentiel. Puis ça passe pas juste par l'aspect technique et technologique. Oui, ça implique de mettre à jour régulièrement nos logiciels, nos systèmes, de surveiller est-ce qu'il y a des menaces potentielles, mais ça implique aussi de former les employés. Et je pense que les deux exemples que tu nous as donné toi à l'interne, ça prouve que tes équipes sont bien formées, sont bien sensibilisées, sont proactives. Tu as su créer des ambassadeurs des bonnes pratiques à l'interne, et je pense que c'est notre meilleur atout. On devrait investir du temps et de l'énergie et être dans la prévention plutôt que de dire oh ben moi ça m'arrivera pas. Pardon, comment ça t'arrivera pas? C'est juste une question de temps. C'est dans la vie, il y a trois trucs qui sont sûrs maintenant: la mort, les impôts et la cyberattaque. Donc, ça s'en vient, malheureusement. Je vois que ça t'a fait réagir.
Oui. J'adore.
Donc, la robustesse de l'IA, je pense que ça doit être aussi une préoccupation. Si on a ce genre de système chez nous, à l'interne, dans nos entreprises, si c'est des choses qu'on implémente, on doit s'assurer qu'ils sont bien formés, que c'est, comme tu disais, d'avoir créé un espèce de bouclier autour, que les données sont précises, sont fiables. Et je pense que la meilleure défense, c'est une bonne attaque. C'est un peu bizarre à dire là, mais dans le monde de la cybersécurité, ça signifie toujours être un pas en avant, en innovant, en s'adaptant pour contrer les nouvelles menaces à mesure qu'elles apparaissent. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de courage, parce que c'est pas toujours facile. S'entourer des bonnes personnes qui sont capables de vulgariser tout ça, rester proche du podcast aussi, parce que à chaque fois tu nous mets l'information en avant-première d'une certaine façon. Vous êtes très très proactif au niveau de la création du contenu, mais beaucoup être dans la planification. Et je pense que aujourd'hui on peut plus être une entreprise et ne pas avoir un plan de gestion des incidents, de dire si telle situation arrive, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai un employé qui perd son ordi, c'est quoi les étapes? Si j'ai un employé qui se fait pirater son compte, c'est quoi les étapes? C'est de planifier ce checklist là et de pouvoir, parce que quand on est dans l'émotion, quand on est dans la crise, j'aime beaucoup une expression au Québec, être comme une poule pas de tête. Et c'est ça, quand on est dans une crise, on sait pas où donner de la tête, on est dans l'urgence, on vit toutes sortes d'émotions. Faut avoir un plan écrit auquel se rattacher, comme ça on peut vivre nos émotions, mais on sait clairement ce qu'il y a à faire et ce qu'on peut faire. Donc ça serait un peu les pistes. Et d'être bien entouré. Je pense que dans la vie, je fais une analogie très bizarre. Tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je compare souvent les relations humaines au crédit. Tu fais une demande de crédit à la banque quand t'en as pas besoin. Si tu demandes une marge de crédit, puis que là, t'es pris jusqu'à la gorge, la banque voudra pas te prêter. Tandis que quand tu le fais en amont, avant d'en avoir besoin, ben là, ils vont être beaucoup plus réceptifs. Et c'est la même chose avec les relations d'affaires, les relations dans la vie de façon générale. Vaut mieux s'entourer d'experts et de gens qui, on sait qu'on va avoir besoin d'eux à un moment donné, mais autant créer le lien avant d'en avoir besoin que là d'être mal pris. On est dans le rush, on est dans l'urgence, puis on prend quelqu'un au hasard qui fera pas la job et qui va juste nous plumer, possiblement. Donc, c'est une autre petite piste.
Et j'adore comment tu le mentionnes. Je veux tellement partager une phrase qu'un grand entrepreneur de Montréal me dit un jour. Il me dit: Jonathan, les banques, c'est un être humain qui va te donner un parapluie quand il fait soleil. Mais quand il va se mettre à pleuvoir, il va le retirer, il va le reprendre. C'est un peu la même chose avec la cybersécurité. Il faut que vous bougiez pendant qu'il fait soleil, parce que quand il va mouiller, malheureusement, il va être rendu trop tard au bout de la ligne. Donc, un des points importants, je pense, c'est vraiment d'augmenter sa connaissance envers les types d'attaques, ce qui peut arriver pour vous et vos équipes, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, peut-être un des bons points, une des bonnes pistes à débuter ce chemin-là, c'est de prendre le présent podcast que vous avez écouté et partagez-le avec votre équipe et entamer une petite discussion de ce que ces gens-là ont appris ou ce qu'ils ont vu dans votre propre organisation, parce qu'il se passe peut-être des choses que vous n'êtes même pas au courant. Donc, ça peut être un bon point de départ pour élever le niveau de connaissance de votre équipe, puis d'entamer des discussions pour avancer de l'avant. Et Mylène, avant qu'on termine aujourd'hui, j'aimerais ça peut-être que tu puisses expliquer ce que tu peux faire pour les organisations qui nous écoutent, pour les aider au niveau cybersécurité. Nous expliquer un peu quels sont les services là chez Cyclic.
Alors, on est vraiment dans cette première ligne de défense, dans l'aspect formation, dans l'aspect sensibilisation des employés, des équipes. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on fait. On vient en entreprise, on parle des bonnes pratiques à avoir en ligne. C'est quoi les nouvelles tendances? C'est quoi les meilleures pratiques à adopter en lien avec tout ça? Les courriels, oui, mais les mots de passe, la navigation sur Internet, partout où est-ce que l'humain a du pouvoir sur la technologie, comme on le disait tantôt. C'est ce qu'on veut, c'est de les sensibiliser. Alors souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « Oh, mais moi, tout le monde est bon. J'ai déjà des ambassadeurs. » OK, mais peut-être qu'ils savent pas qu'ils sont bon. Puis ça prend un expert externe qui met le doigt dessus, qui dit, ben voilà, maintenant t'es ambassadeur étiqueté. Mais je crois aussi beaucoup à la théorie du PPPP, le plus petit pas possible. On ne fera pas changer des habitudes du jour au lendemain, donc il faut aussi être à l'écoute du rythme de nos équipes. Tu parlais de faire écouter le podcast et c'est une idée géniale, mais imposez pas des délais super stricts. Dites pas, OK, on fait ça vendredi après-midi, let's go. Les gens, c'est sûr, on va les perdre. Donc, c'est ce qu'on fait chez Cyclic. Partout où l'humain a du pouvoir sur la technologie, on veut s'assurer qu'il a de bonnes pratiques. Et ça, ça passe par de la formation, de l'accompagnement, de challenger aussi sur les pratiques actuelles et voir où est-ce qu'il peut y avoir possiblement des lacunes dans les pratiques.
Et Méline, pour les gens qui nous écoute, quel serait le meilleur moyen de te rejoindre ou de poursuivre la discussion avec toi?
Très active sur LinkedIn avec mon équipe. On partage du contenu 3 fois semaine pour vraiment enrichir la réflexion sur nos pratiques en ligne. On a aussi une chaîne YouTube où est-ce que on a quasiment 20 000 visionnements. Alors le jour où je dis ça, peut-être que dans 2 ans, je suis comme, oh, c'est rien du tout. Mais pour aujourd'hui, je suis comme vraiment contente et fière. Donc chaîne YouTube, LinkedIn, le site web aussi, cyclic.com, cyclic. Mais pas mal. Émilie de Manson, il y en a juste 2 sur la Terre et je suis la seule au Québec. Fait qu'on me retrouve facilement.
2, mais peut-être en deepfake, peut-être plus. On
Exactement.
Sait pas.
Exactement.
Fantastique. Émilie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour l'éditoire avant qu'on termine pour aujourd'hui?
Souvenez-vous, le plus petit pas possible. Vous êtes déjà beaucoup plus sensibilisé qu'hier, moins que demain, mais ça, le reste est entre vos mains et c'est d'être toujours curieux et courageux dans tout ça.
Merci beaucoup pour ton temps et ton partage, Émilie. Bien intéressant. Je vous invite à aller voir, écouter Émilie, comme je disais, sur LinkedIn, YouTube. Super pertinent, les capsules qu'elle transmet gratuitement pour tous. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres également et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci.
Voici ce que je retiens de ma discussion avec Émilie cette semaine. Premièrement, l'humain est souvent le maillon faible de la cybersécurité de votre entreprise. Deuxièmement, ce maillon faible doit être renforcé par la formation et la connaissance en continu. Troisièmement, l'intelligence artificielle rend le travail plus facile et beaucoup plus percutant en impact pour les cybercriminels, qui fait que vous devez redoubler d'efforts de formation et d'éducation au sein de votre organisation. Dernièrement, il existe plusieurs types d'attaques à surveiller qui sont grandement amplifiées par l'intelligence artificielle, entre autres l'hameçonnage, l'attaque par téléphone et SMS, les deepfakes, le sabotage de données et l'exploitation de vulnérabilités. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un petit commentaire dans les notes de l'épisode. En ce sens, si cet épisode de Balado vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou pour simplement vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!